les associations touristiques régionales associées du Québec, autrement dit l'ATRAC, les associations touristiques sectorielles, l'ATS Québec, et l'Association québécoise de l'industrie, AQIT. Ici à Montréal, et même dans ce studio, on ne mesure pas bien quelles seront les conséquences de tout cela, mais c'est évident qu'encore une fois, je ne pense pas que ce soit terrible, terrible pour les régions. En tout cas, j'ai hâte de savoir exactement ce qui va se produire à la suite de cette éventuelle passation de pouvoir entre l'État et le privé. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Ah oui, évidemment, il y avait une caricature aujourd'hui dans le Devoir. Je vais m'y rendre tout de suite. Oh, elle est dure. Oh, elle est très, très dure. Nous sommes sur la plage, vous savez, la fameuse et tristement plage maintenant, tristement célèbre plage où le petit garçon s'est échoué, ainsi d'ailleurs que son frère et sa maman. Et donc, nous voici de retour sur cette plage et il y a une citation de M. Harper qui dit « Avant d'accueillir des réfugiés syriens, il faut s'assurer qu'ils ne sont pas un risque pour la sécurité canadienne. » Et M. Harper est déguisé en douanier et il est en train de passer un engin sur le corps du petit garçon. Vous savez, ces engins pour vérifier si parfois il n'y aurait pas du métal. Cette dernière nouvelle qui ne fera pas plaisir à Stéphanie Balthazar, qui sera une autre nouvelle voie de service présente à l'émission un petit peu plus loin. Levée sismique à Kakuna, TransCanada a enfreint la loi. Près d'un an et demi après les faits, le gouvernement du Québec vient finalement de délivrer un avis de non-conformité. Près d'un an et demi après les faits, le gouvernement du Québec vient finalement d'émettre un avis de non-conformité à TransCanada, a appris Le Devoir. La pétrolière avait omis de demander l'autorisation au ministère de l'Environnement avant de mener des levées sismiques dans le secteur de Kakuna en avril 2014. Le montant de l'amende n'a pas encore été précisé. Alors, la chronique virale, on pourrait l'appeler comme ça?
Le pouls des médias sociaux, disons.
Le pouls des médias sociaux, disons. Alors, c'est Christiane Campagna qui est avec nous ce matin. Comment
Bonjour,
ça va?
Bonjour, je vais bien.
Alors?
Ce matin, j'ai relevé quelques réactions aux différentes entrevues de Stéphanie Trudeau, alias Matricule 728, dans les médias. Donc, elle était entre autres chez Gravel ce matin.
Oui.
Alors, Tammy Emma Pépin dit « Oh my, l'entrevue avec Matricule 728 chez Alain Gravel, pauvre dame qui parle de manif étudiante comme si elle combattait ISIS.
» Oui, c'est vrai. En plus, je l'ai entendu aussi ce matin, l'entrevue. Et oui, c'est vrai. C'est vrai.
Maxime Charbonneau qui dit « On était peu équipés, dit Matricule 728, qui portait un casque, un gilet pare-balles, une matraque, un gun et du poivre de Cayenne. »
Ça fait beaucoup.
Évidemment, tiens, pour un autre point de vue, il y a Éric Duhaime qui dit qu'elle ferait une très bonne policière à Québec. Et citant un bout de l'entrevue de ce matin où elle a dit « J'étais la loi, j'avais des ordres et il fallait y obéir », il y a Maxime Denoncourt qui dit « On a tout un problème philosophique quand le policier pense qu'il est la loi ».
Oui. Ceci dit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je me faisais la remarque en l'écoutant ce matin, vous allez peut-être me prendre pour une féministe de la première heure, mais quand même, vous ne pensez pas aussi que le fait que ce soit une femme, ça nous fait tellement plaisir quand on peut taper sur une... est-ce qu'on aurait autant parlé du matricule 592 si ça avait été un homme qui avait parlé des gars à des vieilles canailles là, qui jouent de la guitare ou... Je ne sais pas.
Il faut l'espérer, mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que peut-être que ça détourne... Il y a eu beaucoup de bavures policières. Il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre en question. Et il y a comme une sorte de manière de remettre ça sur la personnalité d'un individu plutôt que sur un problème systémique.
Oui, exactement. Et puis, oui, c'est bien dit. C'est paroles de sagesse qui sortent de votre bouche, Christiane Campagna. Je me demandais aussi, est-ce que vous avez entendu parler de la chanson sur YouTube? On ne l'a pas encore, mais on va essayer de la trouver pendant l'émission, qui s'appelle « I want my Canada back ». Il paraît que c'est assez viral. Il y a 225 000 personnes qui auraient entendu cette chanson-là. Ça vous dit rien?
Je
c'est
ne l'ai pas vu passer.
Alors, je compte sur vous pour aller faire une petite recherche. Puis, si vous voulez, vous venez m'en reparler plus tard.
Parfait.
Pourquoi pas?
Ben oui, pourquoi pas.
Si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, je comprendrai, parce que vous êtes quand même passablement occupé ici, Christiane Campagna, recherchiste et aussi...
Mais,
oui?
Un recherchiste efficace devrait trouver une chanson assez rapidement.
D'accord, ok, ça marche. Et vous arrangez pour la porter à mon ami Mathieu pour qu'il la diffuse ici sur les ondes. Merci, merci beaucoup, Christiane Campagna. Alors, à plus tard. Bon, alors, à la une de la presse ce matin, qu'est-ce que nous avons? Bonjour Stéphanie, j'ai Stéphanie qui arrive et qui sera une des voix de service qui va s'exprimer un petit peu plus tard et qui va un petit peu nous livrer tout ce qu'elle a à nous livrer. Oui, oui, asseyez-vous là Stéphanie, c'est bien correct. Alors, moi j'arrive pendant ce temps-là à la une de la presse où on nous présente tout en haut une photo de l'équipe de Paul à Montréal, c'était soir de première hier à Outremont, pour Paul à Québec, bien sûr, sauf que là, Paul à Montréal était... quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ok, juste comme ça, voilà. Comme ça, c'est beau. Ah mais vous savez, vous assistez au préambule, au début de ce magazine, les voies de service. Il faut que vous soyez au courant un petit peu de la cuisine. C'est fini l'époque où, tu sais, on se cachait, puis là, il fallait surtout pas faire de bruit. Fini ça. Allez, hop, on passe à autre chose. Alors, donc, Paul à Montréal, c'était soir de première hier à l'Outremont pour Paul à Québec, œuvre inspirée de la bande dessinée de Michel Rabagliati. Et sachez que ce sera en salle dès le 18 septembre prochain. Également, à la une de la presse ce matin, dévoilement du menu automnal d'Apple. Il y aura un nouvel iPhone. Et des surprises aussi. Et puis, élection fédérale, Vincent Marissal qui dit que le NPD est déterminé à battre Trudeau dans Papineau. Patrick Lagacé, ça c'est très intéressant. Connaissez-vous la clause D13.8? Mathieu, ça
absolument
te dit...
Absolument pas, non.
Oui.
Non.
Vous, Stéphanie, ça vous dit quelque chose? Aucune idée. Hein? Vous n'avez aucune espèce... Eh bien, justement, moi non plus, je ne connaissais pas. Et c'est vraiment... j'ignorais totalement... Restez à l'écoute, mes amis. Également, à la une de la presse, en Hongrie, des migrants défient la police. Les autorités tentent par tous les moyens de leur barrer la route vers l'Allemagne. Et puis, juste avant de passer au premier sujet, qui est celui-ci. Tous les matins, on manque de bus. Les automobilistes qui misent sur les transports en commun pour accélérer leur course à obstacles entre les nombreux chantiers de la métropole devront prendre leur mal en patience parce que la STM n'a pas suffisamment de bus. Oui, oui, vous les avez bien entendu, ce que je viens de dire, c'est écrit dans les journaux. Les trains de banlieue débordent et les nouvelles voitures du métro se font attendre. C'est un assez gros dossier pour tenir deux pages dans la presse ce matin. Je vais donc revenir là-dessus tout de suite, mais avant, comme je le fais tous les jours, le petit clin d'œil de Stéphane Laporte. Ce soir, spécialement pour Montréal, Madonna portera un soutien-gorge avec des cônes oranges. Alors donc, c'est déjà une rentrée difficile. Si vous avez écouté tous les postes de radio qui font état de la circulation, vous le savez, hein, hier et ce matin, ça a été l'enfer pour les gens. Vraiment l'horreur. On manque. Le pire, c'est qu'on manque de bus. Parce que, nous dit-on, c'est un dossier de Bruno Bisson ce matin dans la presse, la rentrée de l'automne 2015 a une couleur. Orange. Et là, on ne parle pas du NPD. L'omniprésence des chantiers dans les rues de Montréal devrait convaincre des milliers d'automobilistes de laisser leur voiture à la maison et d'opter pour l'autobus, le train ou le métro. Mais ça tombe mal parce que la STM manque de bus, les trains de banlieue sont pleins, les nouvelles voitures du métro sont en retard. Il semblerait que sur la rive sud, des centaines d'autobus qui empruntent la voie réservée du pont Champlain s'enlisent tous les matins dans le chantier de l'autoroute Bonaventure à l'entrée du centre-ville. Les transports en commun sont-ils encore une priorité dans la métropole? C'est une excellente question que se pose Bruno Bisson. La Société de transport de Montréal, donc, n'a pas assez d'autobus, on vient de le dire. Les usagers qui, au cours des derniers mois, ont cru remarquer des écarts inhabituels entre les passages des autobus ou qui avaient l'impression d'attendre plus longtemps que d'habitude à l'arrêt, ne rêvaient pas. Il y a moins d'autobus qu'il devrait y en avoir. Selon le directeur général de la STM, Luc Tremblay, les autobus de la STM ont roulé environ 800 000 km de moins qu'ils auraient dû depuis le début de 2015 pour pouvoir assurer la totalité des services quotidiens planifiés par l'organisation. Monsieur Tremblay, qui attribue ce manque d'autobus à un ensemble de facteurs, dont une pénurie de personnel et des travaux en cours dans les ateliers d'entretien, dont le complexe Crémazie, où sont effectuées les réparations majeures sur les 1 700 bus de la STM. Question, pendant cet été, on savait bien quand même à la rentrée qu'on aurait besoin d'autobus. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne qui fait digi-di-digi-di?
Tout le monde en vélo.
Ben oui, mais il aurait peut-être fallu qu'on les répare, ces bus-là, avant d'arriver. Enfin bref, toujours est-il que c'est la pagaille totalement à Montréal et dans les environs, et peut-être aussi dans votre coin de pays, vous qui nous écoutez. Vous savez que je vais aborder les régions aussi. J'ai lu les journaux régionaux ce matin. J'en parle un peu plus tard à l'émission. Une autre voie de service qui rentre, c'est l'amie Louise qui rentre. Ça va bien, Louise?
Ça va super bien.
Bon, c'est parfait. Louise et Stéphanie, que vous entendrez dès la deuxième demi-heure de cette émission, alors qu'elles sont arrivées avec dans leur cartable, dans leur sac à main, toutes sortes de beaux sujets à vous proposer, et à nous proposer d'ailleurs, parce que j'ai très très hâte d'entendre ce qu'elles ont à nous dire. Alors, cette fameuse clause D13.8 décaissée, eh bien... Il commence par nous parler d'un couple qui habite le même bungalow. Et quand je dis « il », c'est Patrick Lagacé. Ils habitent un bungalow à Dollard des Ormeaux depuis 31 ans. C'est absolument magnifique. Il y a des arbres matures. C'est vraiment une très, très belle maison. Bon, ils se rappellent quand leurs enfants jouaient avec les autres ticus du quartier dans ce parc-là. Et puis Lucie qui dit « ben, ce sera notre dernier hiver ici ». En effet, ils ont mis en vente leur maison. Sauf que la maison... ne se vend pas. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est dur de vendre une maison où quelqu'un est mort. Et il y a 3 ans, presque 3 ans jour pour jour, leur fils Olivier s'est pendu dans le sous-sol. Il avait 25 ans. Et le Québec est la seule province canadienne qui oblige les vendeurs à divulguer s'il y a déjà eu un suicide ou une mort violente dans un immeuble qu'ils mettent sur le marché. Ailleurs au Canada, cela est fortement suggéré pour se protéger en cas de recours civil. Et aux États-Unis, ça dépend des États. Alors, le courtier a l'obligation de dévoiler tout facteur pouvant diminuer la valeur de la propriété, de tout facteur pouvant rendre le consentement vicié. Tout facteur, se dit Lagacé, mais c'est tout et c'est n'importe quoi. Pas seulement les cas évidents de vice pouvant toucher la structure incendie ou la santé humaine, bon, les moisissures, les plantations de potes, etc., mais la mort non naturelle est un facteur qui irrite suffisamment d'acheteurs pour que l'OACIQ décide en 2012 de lui consacrer sa propre clause dans la déclaration de vendeur, cette fameuse clause D13.8 qui pose la question « À votre connaissance, y a-t-il déjà eu un suicide ou une mort violente dans l'immeuble ?» Et vous devez cocher « oui » ou « non ». Et dans le cas de ces gens-là, ils ont coché « oui » et ils n'arrivent pas à vendre ce petit coin de paradis. Et même qu'ils ont, à chaque fois qu'ils ont une visite, ils le disent. Ils sont obligés de le dire à ceux qui viennent visiter. En tout cas, à un moment donné, il y a eu un échange un petit peu surréaliste entre parce qu'il a décidé d'aborder la question Lagacé avec Robert Nadeau, qui est le président de l'OACIQ. Et Lagacé qui dit « Oui, je sais bien qu'il est de bonne foi, qu'il veut qu'on se protège et qu'on protège toutes les parties impliquées dans une transaction immobilière, incluant ses courtiers. Mais qu'importe, l'échange à ce sujet a été un peu surréaliste. » Lagacé dit « Les esprits, ça n'existe pas. Monsieur Nadeau rétorque, mais dans certaines religions, on croit que... L'agacé dit, oui, je veux bien, mais ça n'existe pas. Et l'autre, ah, ça c'est votre point de vue. C'est un point de vue personnel de savoir si ça existe ou pas. À partir du moment où on dit ça, l'appréciation devient personnelle à chacun. Ça peut être une question de religion, de vécu. Pour certaines personnes, ça peut même être pire que s'il y a des moisissures. Et là, l'agacé qui nous dit, c'est ici que je décroche. Dans tout ce que je viens de vous raconter, la société, via l'OACIQ, via les tribunaux, cautionne l'irrationnel, cimente du stuff de films d'horreur dans le normatif, sans trop se poser de questions sur le fond. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce couple-là, Stéphane et Lucie? Bien, ils ont enlevé leur pancarte à vendre. Et l'agacé conclut en disant « Vous pouvez trouver ça irrationnel, mais ils trouvent qu'elle est pleine d'amour, la maison, leur maison. Et malgré tout, donc, ils vont y passer un autre hiver. » Ah, on attendait un peu de musique, mais ah là, voilà. Merci. Alors attention, je voulais voir quelle est la caricature de Chapelot ce matin dans la, dans la presse. Alors, je l'ai sous les yeux. Il y a monsieur Duceppe, Gilles Duceppe, qui s'apprête à faire un discours. Alors il a son slogan devant lui, « On a tout à gagner ». Et on s'aperçoit que derrière, mais c'est vraiment très ombragé, il y a des cercueils vides et derrière lui. Et là, il y a un croque-mort qui vient mesurer M. Duceppe. Oh, c'est donc Chapelot dans la presse. Alors voilà, on se quitte juste quelques minutes. Et au retour, j'ai deux voix de service avec moi. Celle de Louise Mercier et de Nathalie Balthazar. Alors à tout de suite, elles ont tellement de beaux sujets à nous présenter.
Este tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. We'll be right back. I can't resist you. What good is there in triumphs? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me. Don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me. The kiss of fire.
C'est pas parce qu'on est dans l'actualité qu'on va pas se rincer un petit peu les oreilles. Et ce qu'on vient d'entendre avec Hugh Laurie, c'était vraiment absolument épatant. Merci beaucoup, Mathieu Tessier. Très, très bon choix. Ça y est, j'ai deux autres voix de service qui m'entourent. On va souhaiter la bienvenue à nos deux amis bénévoles. Alors ça, mesdames, c'est le petit indicatif qui nous dira que vous êtes arrivés en studio. Et j'ai très, très hâte de savoir. Je vais peut-être commencer par Stéphanie, que j'ai rebaptisée tout à l'heure Nathalie, et je m'en excuse. Comme vous êtes la toute nouvelle, celle qui vient d'arriver, Louise, vous permettez, on va se tourner vers Stéphanie. Quels sont les sujets, vous, qui vous allument, Stéphanie?
Eh bien, moi, j'adore l'environnement, toutes les causes écologiques, l'environnement, okay. Ce qu'on peut faire. On sait tous qu'il y a un réchauffement de la planète, mais il y a des choses qu'on peut faire au quotidien. C'est le genre d'informations qui m'intéressent.
Alors donc, vous avez fouillé les journaux ce matin. Allumez-nous un petit peu de quoi vous allez parler.
Alors, la situation de la perche chaude est assez spéciale au Québec en ce moment.
Un
tout petit poisson, mais qui goûte très bon.
Ah oui, c'est ça, ça se mange? Ça?
Oui, ça se mange. Et bref, moi, j'aime beaucoup. Puis, on sait que, bon, il y a plusieurs types de poissons qui ont eu des difficultés. On a souvent parlé de la pollution dans le fleuve Saint-Laurent. Donc... Alors, c'est ça, j'aimerais ça vous en parler un peu. Puis, évidemment, il fait très chaud, donc plus tard, je vous parlerai de comment se rafraîchir pendant l'été sans utiliser un climatiseur, nécessairement.
Donc, très bonne idée, parce que ça, quand on est un peu écolo, les climatiseurs, on ne peut pas être très, très favorable
à ça. Ça aide à réchauffer l'extérieur, donc
c'est ça,
on essaie d'éviter ça un peu.
Non, c'est ça, c'est pas terrible. Bonjour, Louise Mercier.
Bonjour, Clotilde.
Vous, on vous connaît depuis déjà quelques mois,
Depuis le mois de mai.
Maintenant.
Oui.
Bravo. Et puis merci d'être encore là. Alors vous, ce qui vous allume, c'est la philo, c'est la psychologie, c'est tout ça.
Exactement. J'ai fait un bac en psychologie avant de faire ma maîtrise, mon MBA. Alors, et j'ai écrit un livre sur les relations de couple, les relations amoureuses. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment sur les relations amoureuses que j'ai trouvé deux bons articles. Un qui est pour le coup de foudre, qui est toujours bien excitant. Et l'autre, qui nous donne 8 conseils pour réussir sa relation amoureuse.
Ça, va falloir me lire doucement parce que je vais prendre des notes. Alors, Louise, le coup de foudre, parlons-en.
Le coup de foudre, c'est tellement mystérieux.
Mais ça
c'est
existe.
Tellement. Ça existe et on apprend des choses. L'article passe à travers de. Ça existe quand nous sommes disponibles, quand nous nous sentons manquants, quand nous sommes prêts à régresser.
Ah oui?
Le coup de foudre est-il forcément réciproque?
Ah oui.
Ça peut être le problème.
Qui a écrit cette chose?
Cet article est écrit par Hélène Fresnel, qui était dans le magazine Psychologie de psychologie.com.
Oui, d'accord. Donc, OK. Alors, on écoute ça avec beaucoup d'intérêt.
Oui. Alors, pouvons-nous tous être frappés du coup de foudre? Le cœur qui s'emballe, les yeux qui s'illuminent, la certitude d'avoir trouvé celui ou celle qui va nous combler. Nous aimerions tous ou presque connaître ce grand frisson. Et si tomber amoureux au premier regard n'était pas seulement le fruit du hasard? Je dois avouer que ça m'est arrivé 3 fois.
Trois fois!
Oui, mais ça n'a pas duré, visiblement.
Ah, oh, ben heureusement, parce qu'après, vous allez nous dire les trucs.
Alors, je sais que c'est puéril, mais j'aimerais vivre ça au moins une fois dans mon existence. Mmh. Léna, jolie trentenaire célibataire en rêve, l'affaire est entendue. Le coup de foudre n'est garant de rien, ni de durée, ni de bonheur dans la relation amoureuse. Et il fait même l'objet de toutes les mises en garde. C'est une illusion, déception garantie, l'autre n'est jamais ce qu'il a l'air d'être, etc. Pourtant, il occupe une place de choix dans nos petites mythologies secrètes. Mm-hmm. Au fond, de quoi s'agit-il? De l'amour au premier regard, d'une idéalisation instantanée de l'autre, définit le psychiatre et psychanalyste Didier Lauru, auteur de Père-fille, une histoire de regard. De la certitude quasi immédiate d'avoir en face de soi quelqu'un dont la présence viendra inexplicablement nous combler. C'est peut-être ça le petit problème. Si on s'attend à ce que quelqu'un nous comble...
Oui, parce que déjà, on a déjà des attentes face à l'autre.
Et exactement, là, et c'est peut-être pas la réalité, donc...
Non, effectivement.
C'est comme si je m'étais perdue et qu'on vint tout à coup me donner de mes nouvelles, écrit André Breton dans L'amour fou. Et cela n'arrive pas 10 fois dans une vie, préviennent les psychanalystes. Une fois, c'est déjà bien. 2, 3, c'est le maximum. Donc, je pense que j'en aurais pu.
Oh, vous êtes défaitiste!
Au-delà, ce ne sont pas des coups de foudre, plutôt des comportements compulsifs d'amoureux de l'amour. Mm-hmm. Ceux qui l'ont connu évoquent un éblouissement instantané. J'étais à un vernissage, se souvient Mélanie, 42 ans. J'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux, un homme grisonnant et souriant. J'ai pensé, c'est un homme comme
il
celui...
Il est plein de fric!
Clotilde!
Excusez-la!
C'est bon!
Surtout un vernissage, effectivement. C'est un homme comme celui-là qu'il me faudrait. Il a l'air heureux, mais profond. Je pourrais passer ma vie avec quelqu'un comme ça. Son émotion était partagée et quelques instants plus tard, le monsieur grisonnant, peut-être riche, est venu lui parler. Il a évoqué « L'homme qui marche » de Giacometti, la force de l'art qui aide à avancer. Je me suis dit « Oui ». Maintenant, tu ne dis plus que oui. Depuis, je n'ai jamais cessé de lui dire oui. Marine, 32 ans, se déclare, elle, incapable de céder à cet emballement. J'ai besoin de connaître l'autre avant de tomber amoureuse. Je ne peux pas, d'un claquement de doigts, fondre pour quelqu'un. Ça ne m'est jamais arrivé et je ne me le souhaite pas.
Ouais, mais c'est chimique. En même temps, alors même si tu le souhaites pas, de toute manière, ça peut... Parce qu'apparemment, il y a quelque chose de chimique, quoi, qui se passe.
Mais il y a quelque chose aussi de mystique, je dirais.
OK.
Parce que je trouve que, personnellement, c'est, on dirait qu'on voit sa vie défiler et on sait que cette personne-là va faire partie
c'est vrai.
De notre chemin.
Oui, c'est vrai.
Donc, je dirais, c'est sûr qu'il y a les phéromones, l'échange de phéromones qui fait la chimie. Mais je pense qu'il y a plus.
Il y a plus que ça.
Dans un coup de foudre. Donc, depuis, je n'ai jamais cessé de lui dire oui, je reviens à la même place. J'ai besoin de connaître l'autre. Voyons, je suis en train de relire.
C'est bien correct, c'est pas grave. Mathieu, vous, avez-vous déjà connu ça, le coup de foudre? Il met son ticas, hein?
Oui.
Oui, c'est vrai?
Bien sûr.
Avec le cœur qui s'emballe et tout, avec les jambes là, qui deviennent molles, et puis quand on se dit, mais cette personne-là, c'est la femme de ma vie, ou c'est l'homme de ma vie, ou c'est...
Oui, tout à fait.
Vous avez connu ça, et vous, Stéphanie?
Oui, je l'ai mariée.
C'est vrai? Oui. Ah ben, vous avez bien fait.
Ça, c'est fantastique.
Ben oui.
Alors, les 8 règles tantôt vont aider.
Oui, merci, oui, c'est ça, j'ai hâte d'entendre ça.
Alors, est-ce que vous vous êtes retrouvée, Louise?
Oui, je me suis retrouvée.
D'accord.
Il y aurait d'un côté ceux qui ont vécu cette expérience exaltante, comme Mathieu et Stéphanie, et parfois douloureuse, surtout quand elle est à sens unique. Et de l'autre, ceux qui en seraient exclus, sans forcément en souffrir, puisqu'ils ne désirent pas l'expérimenter. S'agirait-il tout simplement d'une question de volonté? Non. Tout le monde peut potentiellement vivre le coup de foudre, y compris ceux qui ne le veulent pas consciemment, assure Didier Lauru. Mais certaines conditions doivent être réunies, et celles-ci n'ont évidemment rien à voir avec une envie, affichée ou pas, de connaître ses sensations. Alors, on passe ensuite aux 4 situations. Alors, si on veut. Donc, quand nous sommes disponibles. D'abord, préexiste évidemment une rencontre avec celui ou celle qui déclenchera la secousse. Mais cela ne suffit pas. Il faut être perméable aux effets du hasard, sans pour autant vouloir le forcer. Le psychanalyste Roland Gori, auteur de « Logique des passions », éclaire la dimension irrationnelle du phénomène en citant Picasso.
Ah oui?
« Je ne cherche pas, je trouve. »
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
La logique est ici la même. Quand on cherche le coup de foudre, il est impossible de le trouver parce que le volontarisme échappe aux conditions psychiques de ce sentiment amoureux, très puissant, de cette forme de folie, de mirage qui nous saisit à la vue de l'autre.
Ouais.
Alors là, il faut changer de page.
Il n'y a pas de problème. Mais, j'avais quelque chose qui m'avait traversé l'esprit, puis je viens de le perdre exactement. Et moi aussi, il fallait que je change de page dans mon ordinateur en haut. Puis là, il y a quelque chose qui a fait zoup et c'est parti. Ah oui, quand on dit disponible, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on vit seul. C'est parce qu'il faut faire attention à ça. Et c'est là où, malheureusement, d'ailleurs, ça cause parfois des désastres au sein de couple. C'est qu'on est en couple, on est bien, d'ailleurs. Bon, on est dans un petit confort, machin. Puis tout d'un coup, patatang! Au moment où on s'y attend le moins, on a l'impression qu'on se fait renverser par un camion.
Ouais.
Et là...
C'est certain que la disponibilité dont on parle ici, c'est une disponibilité d'esprit. De cœur. Oui.
Mais dont on n'a pas toujours conscience.
Exactement.
Mais à mon avis, si on est bien avec l'autre... Parce que vous en
oui,
pensez,
non, ça, va.
Ça ne va pas arriver. Non. Mais si, je veux dire, si on est bien avec la personne avec laquelle, si on est connant, même
ça,
pas.
Ça, c'est tout un sujet de est-ce que quelqu'un peut être amoureux de deux personnes en même temps?
Ah, ouais. Okay.
Mais l'amour véritable, je ne crois pas.
Non, c'est ça.
Mais un amour quand même assez grand, ça, mm-hmm. ça peut exister. Alors, c'est ça qui devient un petit peu plus compliqué.
Il y a des bons films à ce sujet-là. Il y en avait un, c'était Marie-Jo et ses deux amours. C'est quand même vieux, je vous dirais, 2002. Oui. C'est l'histoire d'une femme mariée qui tombe justement amoureuse d'un autre homme. Puis, c'est le débat entre ça, mais c'est un drame assez, assez intéressant qui débat très bien
Parce
le sujet.
Parce qu'elle aime encore son mari, Exactement. Donc elle est en train de...
C'est formidable d'entendre Stéphanie dire... c'est assez vieux, c'était en 2002. Moi, je pensais à Julie Jim, par exemple, avec Jeanne Moreau. Elle est dans les années 1950. OK, on ne vous interrompt plus. Allez-y, Louise.
Alors, en fait, pour pouvoir l'expérimenter, il nous faut sentir disponible, inconsciemment dégagé de toute attache, hors de tout volontarisme. Quand Louise, qui n'est pas moi, consultante de 37 ans, a rencontré Patrick à Hong Kong, elle n'avait pas du tout l'intention de tomber amoureuse. Je démarrais un tour du monde avec un copain et je ne cherchais vraiment pas une rencontre sentimentale. Je voulais me balader, découvrir d'autres horizons. J'avais envie de voyager. J'étais libre comme l'air, très disponible dans ma tête. Mm-hmm. Nous en étions au début de notre périple. Et puis, Patrick est entré dans ce bar où j'étais allée avec une amie qui partageait un appartement avec lui. Dès que je l'ai vu, une petite voix en moi a murmuré un truc que je trouve d'ordinaire ignoble quand je l'entends chez les autres. « Je le veux.
» Wow, c'est hein? tout clair.
Viens-t'en par ici pour qu'on dise comme qui. Il m'était bizarrement familier. Il a commandé deux bières d'emblée à la chinoise. Il se préparait à se ruiner consciencieusement la tête. Il ne m'avait même pas remarqué, je pense. Il s'est assis à côté de moi et j'ai senti son parfum. C'était comme une confirmation. Il portait, pour un homme de Caron, le parfum de mon père. Nous avons bu, bien discuté. Nous nous sommes embrassés, je crois. Je trouve ça drôle, je crois.
Je crois, oui.
Il me semble que ça devait être mémorable, mais bon. Je ne me souviens plus très bien. Nous sommes partis ensemble en taxi. Nous étions ivres. Pendant le trajet, il m'a tapé légèrement sur la cuisse en riant. Il me faudrait une femme comme toi, en fait. Puis le taxi m'a déposé à l'hôtel. Et le lendemain, nous sommes partis avec mon copain. Je n'étais pas triste. Je me suis dit qu'il fallait faire confiance au destin. Deux mois plus tard, à Paris, un soir, alors que j'étais au bureau, Patrick m'a téléphoné. Il était revenu en France, s'était souvenu de l'endroit où je travaillais, avait consulté l'annuaire. Nous nous sommes revus et voilà. 10 ans plus tard, nous vivons ensemble et nous avons 2 enfants.
Ah, wow.
Donc, c'est une belle...
Louise, est-ce qu'on a beaucoup encore de situations là? Parce que je vois l'heure qui tourne et j'aimerais aussi entendre beaucoup mes petites paires chaudes.
Est-ce que... Mais mon sujet, en plus, colle
oui,
avec
non,
le
non,
vôtre. Donc...
Mais, et ça m'embête là, de vous...
Mais ce qu'on pourrait faire, c'est aller aux
petites paires chaudes, puis on va revenir là-dessus.
On va revenir avec d'autres situations.
D'accord, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors attention, les paires chaudes, préparez-vous, Stéphanie.
Thank you.
Et ça, c'est immanquable. Hein? Même quand j'étais toute seule à l'émission au quotidien, quand il mettait cette musique-là, je suis contente parce que je vois Stéphanie qui est dans le... ça la met dans le même état que moi.
C'est joyeux.
Mais oui, absolument. Alors, les petites perches chaudes.
Oui, alors, je vais continuer un peu le sujet de Louise parce que...
Comment ça?
Pour les humains, c'est coup de foudre.
Les perches chaudes tombent en coup de foudre.
Pour eux, c'est la fraie. Donc, les perches chaudes doivent se rencontrer aussi et on espère, bien sûr, le coup de foudre pour perpétuer la race.
Oui.
Donc, dans le Courrier du Sud, Sarah-Ève Charland parle des environnementalistes qui souhaitent se mobiliser pour sauver la perche chaude.
OK.
Alors, il y a des régions au Québec où est-ce que, justement, elle est en voie de disparition, ce qui est assez spécial, considérant que c'est un poisson extrêmement connu. Donc, ce qu'on dit, c'est que à Odana, qui est dans le Bas-Saint-François, il y a plusieurs projets qui sont en branle en ce moment.
Mm-hmm.
Donc, un moratoire sur la pêche a été instauré en 2012 pour une durée de 5 ans au lac Saint-Pierre, parce que la situation est critique en ce moment.
Okay.
Donc, le premier marais de la commune d'Odanac, qui est un endroit idéal pour la reproduction du poisson, a été infranchissable jusqu'à l'année dernière parce qu'il y avait eu beaucoup de changements dans les cours d'eau étaient rendus dénivelés.
Okay.
Donc, c'était beaucoup trop haut pour que la petite perche chaude aille faire son coup de foudre avec
Madame
perche chaude.
C'est
ça. Alors, ils avaient de la difficulté à se rencontrer, les perches chaudes.
Ah.
Alors, ils étaient tout seuls leur
coin. Ça va mal pour faire des petits...
Oui, non, c'est ça. Il faut se rapprocher un peu.
Effectivement.
Alors, le Bureau environnement et terre d'Odanac a réaménagé le cours d'eau en adoucissant la pente au printemps 2014. Donc, depuis 2012, on n'avait pas le droit de pêcher.
Mm-hmm.
Depuis 2014, on a fait la dénivellation du terrain. Puis là, on regarde ce qui se passe. Alors, en ce moment, ce qu'on peut dire, c'est que, selon les données recueillies, une centaine de perches chaudes ont réussi à atteindre le marais pour frayer. Donc, il y a une amélioration. Le projet vaut la peine et puis on va voir si on le perpétue. Alors, qu'est-ce qui se passe à la rivière Saint-François? Parce que là, on parlait d'Odanac, c'est qu'il y a deux sites potentiels où est-ce qu'on veut essayer de faire la même chose. Alors, il y a le chenal tardif à Pierreville, où est-ce que c'est un endroit totalement agricole qu'il faudrait réaménager le site et le fossé. Et il y a plusieurs discussions avec les agriculteurs, parce qu'on ne peut pas tout modifier sans leur en parler. Donc, ce que je vois ici, c'est que ça se passe quand même très bien. Les gens sont ouverts, justement, à pouvoir sauver l'un des poissons les plus connus du Québec.
Si je vous comprends bien, là, ce ne sont pas des raisons écologiques. C'est pas parce que, à moins que la transformation des sols se soit due aussi à des problèmes environnementaux ou parce que...
C'est intéressant votre commentaire parce que justement, il faut conserver la diversité parce que ces poissons-là, évidemment, en nourrissent d'autres.
Ouais.
Puis, voyons ce qu'ils emmènent dans l'eau. Donc, il faut conserver ces diversités-là alimenter d'autres poissons, alimenter d'autres insectes, continuer à garder finalement ce qu'on a.
La chaîne alimentaire.
Oui, bien sûr, c'est ça. Puis, évidemment, c'est ça, il y a des animaux qui se nourrissent de ça, les renards ou je ne sais trop, bref, qui sont autour. Alors, puis c'est autant bénéfique pour l'agriculteur que pour les animaux qui sont autour. Alors, bref, c'est ça. L'organisme en ce moment conclut une entente avec les agriculteurs. Il y a un premier projet qui pourrait voir le jour d'ici un an ou deux. Alors, il y a déjà un moratoire, un premier projet pilote qui fonctionne. Donc, on espère que la perche chaude
sera sauvée.
Sera sauvée.
Rappelez-nous, c'est dans le Courrier du Sud que vous avez trouvé ça. Et qui l'écrivait, le nom de la journaliste?
Madame Sarah-Ève Charland.
Merci beaucoup.
Plaisir.
On danse un peu moins sur celui-ci, mais quand même, il y a quelque chose de bien. On l'aime bien aussi. Louise, je vous ai coupé le sifflet tantôt pour aller vers la perche chaude, mais on va revenir vers le coup de foudre un peu. Avez-vous d'autres situations pas banales, mettons?
Il n'y a pas de problème. Disons que on va digérer ce qui est arrivé tout à l'heure. Alors, la deuxième situation du coup de foudre, c'est quand nous nous sentons manquants, donc incomplets. Selon Roland Gori, pour se laisser envahir, un certain état d'esprit est nécessaire. C'est une forme de nécessité intérieure dont nous n'avons pas conscience et qui a à voir avec le sentiment que quelque chose nous manque. Un petit peu dans la dépendance affective, là, mais... Quand nous nous sentons complets, arrivés à destination, nous ne pouvons pas être saisis par cette coïncidence hallucinante, la perception d'un autre qui pourra panser nos blessures intérieures. En revanche, si une insatisfaction indicible nous fait traverser l'existence de biais ou si nous sommes dans un état de profonde mélancolie, alors quelqu'un est susceptible d'apparaître là où il était attendu sans que nous sachions que nous l'attendions.
Oui.
C'est souvent dans un ciel triste que survient cet éclair amoureux quand nous avons traversé des événements difficiles qui nous ont vraiment atteints.
Et que soudain, c'est comme le trou dans les nuages. Non, mais c'est vrai, c'est cette image-là.
Oui, disons que moi, les trois fois, c'était pas...
Non, bon, d'accord.
Hein? C'était pas dans un manque, mais il y avait une notion de connu avec l'autre personne, instantanée. C'est ça que je trouvais très bizarre. C'est comme si quelqu'un surgissait tout à coup pour soutenir la voûte céleste de votre quotidien. C'est magnifique. Devenir le porte-manteau de notre manque à être.
Oui, mais enfin bon, je n'ai pas l'image du porte-manteau, mais...
On n'est pas tellement porte-manteau au
non,
Québec.
Non, on n'est pas très... Non, c'est ça, non.
Après ça, c'est quand nous sommes prêts à régresser. Ça m'intrigue.
Oh.
Apparition, hallucination, mirage, vision... Tout dans le coup de foudre renvoie à la vue. Normal, affirment les psychanalystes, qui rappellent d'ailleurs que dans d'autres langues, l'expression de cette expérience se nomme « l'amour au premier regard ». Pour Roland Gori, le coup de foudre, c'est d'ailleurs l'instant de voir ce qu'est la passion. Notre œil est capturé par ce que l'autre nous présente et notre raison chavire.
Alors là, il serait intéressant d'avoir un non-voyant avec nous et de lui demander, mais vous, quand... Parce que... Les non-voyants ont des coups de foudre, donc ça ne passe pas par le regard.
C'est un très bon point.
Dommage que Luc Fortin ne soit pas là, parce que Luc, c'est un bonhomme qui a été très amoureux, ça j'aurais bien aimé.
Mais je pense aussi que quand il je ne suis pas non-voyante, mais le toucher du visage et tout ça peut peut-être donner le même effet.
Et les phéronomes, justement, dont nous parlions tout à l'heure.
Oui, mais justement, Ray Charles, c'est comme ça qu'il voyait, si on veut, si une femme était belle ou non. Il avait l'habitude de toucher la peau.
Ah, oui,
il aimait beaucoup l'intérieur des avant-bras. Il disait que c'était une façon de voir si la femme était belle.
Ah, c'est intéressant.
Malgré qu'il était non-voyant.
Ben oui, mais ça, on pourrait plus le faire parce que la bonne femme dirait « Oh mon Dieu, je suis en train de me faire agresser!
» Oui, c'est ça. Pas de touche.
Alors là, on continue par les voyants.
Il vous reste à peu près 2 minutes 30.
Ah, j'en ai pour...
Non, mais allez-y. Prenez donc 2 minutes 30, ça va me faire plaisir, Louise.
Où est-ce que j'étais rendue, là? Notre œil est capturé parce que l'autre nous présente et notre raison chavire. Donc, Marie-Jean Sauret insiste sur le fait que cela arrive à des personnes pour lesquelles le désir passe par le regard. L'apparence de l'autre joue le rôle d'un voile qui fait promesse d'un trésor si nous sommes capables de le soulever. Quand Martin se penche sur ses coups de foudre, il se souvient que c'est toujours quelque chose dans les yeux qui m'a attiré. Parfois, c'était un défaut, un petit tic, et s'ils cherchent un point commun entre elles, chacune avait les yeux clairs, se rappelle-t-il. C'est sûr que les yeux bleus, toujours le gros...
Moi, ça...
Non, moi non plus.
Non.
Bon, alors, je dirais, il me reste un petit paragraphe pour dire que le coup de foudre est-il forcément réciproque? J'imagine que quand il ne l'est pas, ça doit être très, très difficile. Non, et c'est bien là le drame. Le coup de foudre intervient quand nous croyons avoir rencontré une personne qui nous parle de nous, détaille le psychanalyste Roland Gori. Elle nous a fait signe sans qu'on le veuille, mais aussi sans le vouloir, elle. Et la réciprocité n'est évidemment pas garantie dans l'expérience.
Ah non.
Quand notre impression n'est pas partagée et que nous restons bloqués sur l'autre, nous courons le risque de nous enfermer dans la passion et d'aimer dans la souffrance, conclut Didier Lauru, psychiatre et psychanalyste. Seule solution, arrêter d'espérer, accepter l'idée que nous étions seuls à vivre un mirage et essayer de passer à autre chose pour éviter de nous enfoncer dans la douleur.
Alors tout, vous saurez tout sur le coup de foudre et merci Louise Mercier de nous avoir apporté ce papier-là qui était signé, déjà je ne me souviens plus, dans quel journal vous avez trouvé ça?
Dans
psychologie.com. Oui. Merci infiniment. Louise Mercier et Stéphanie Balthazar qui restent avec moi, c'est-à-dire avec l'Osile de Seille, on va encore passer une trentaine de minutes ensemble. Rappelez-moi votre deuxième sujet, Stéphanie.
Rafraîchissez votre maison sans climatiser.
Ah, surtout en ce moment.
Ah voilà.
Incroyable. Des bons trucs. Chaleur humide encore, mais moi j'adore ça parce que quand on sait ce qui nous attend derrière.
Oui.
que j'en vois pas en se plaindre. Restez là. C'est Clotilde Seille avec les voix de service. Vous écoutez Canal M. Et je suis toujours en compagnie de Stéphanie Balthazar et de Louise Mercier. Stéphanie, vous avez un deuxième sujet, vous qui adorez l'économie, l'écologie, l'environnement, l'économie tout ça. Aussi. C'est vrai, l'économie aussi?
Oui, ah, mais, oui, ça, c'est relié selon moi. C'est
ah, mais relié. Ne vous gênez pas à nous amener des sujets d'économie parce qu'ils se font rares par les temps qui courent. Ah. Oui, très rares. Alors, je serais ravie, personnellement, que vous nous ameniez de temps en temps un sujet d'économie vu qu'il n'y ait pas trop de chiffres et de pourcentages et de machins. Je fais leur sens.
Dur à suivre.
Alors, c'est à vous. Oui. Il s'agit de quoi?
Alors, je crois que tout le monde va bien apprécier connaître quelques petits trucs pour rafraîchir sa maison sans climatiser nécessairement. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas acheter d'air climatisé comme moi. Et il y a des gens qui, tout simplement, n'ont pas eu le temps ou n'ont pas l'espace pour pouvoir avoir un climatiseur à la maison. Donc, ici, j'ai quelques trucs qui vont peut-être vous aider. Donc, je ne sais pas si vous connaissez David Suzuki, qui est un parfait, bon, génial.
C'est un peut-être que c'est ça. Peut-être c'est ça. Que les auditeurs le connaissent moins, oui.
Alors, c'est un environnementaliste canadien qui est quand même très connu. Et sur son site Internet, il y a un blog qui s'appelle Mode de vie et compagnie, qui donne beaucoup de trucs super intéressants dans tous les domaines, autant beauté que bon, blablabla. Alors, l'article provient de là. Et c'est Liliane, Nicolas et Benjamin des Cohabitations qui ont collaboré. Alors, ceux qui habitent en milieu urbain peuvent être touchés par la chaleur accablante, puisque la température ambiante y est parfois de 5 à 9 degrés Celsius, plus élevée que dans les espaces ruraux. Alors, cette différence marquée est le résultat d'une combinaison de facteurs, dont le manque de végétation, la présence en grande quantité de bitume qui est l'asphalte, la chaleur émise par les véhicules, ça bien sûr. C'est le phénomène des îlots de chaleur. C'était beaucoup d'actualité l'année passée. Et puis...
C'est perdu, mais c'est pas grave. Ouais. Mais c'est vrai, mais moi, regardez, là, je vais tout de suite rebondir là-dessus. Oui. Lorsque j'ai acheté mon appartement, il y a maintenant quelques années, peu importe, mais la rue était bordée d'arbres. Ce ne sont pas des frênes, mais ce sont des érables.
Okay.
Mais ils sont quand même, ils ont tous été malades et on les a tous coupés. Et je vous jure qu'en ce moment, je me pose la question... déménager ou rester là, comme chantait Pauline Julie.
Ça a changé la température.
En plus, vivre sans verdure, pour moi, c'est terrible. Quoi. Je me levais le matin, la première chose que je voyais, c'était des arbres. Mm-hmm. Maintenant, je vois la tour de Radio-Canada. J'ai plus d'arbres pour me cacher ça. Non, mais et je suis convaincue qu'on devait, oui, gagner un degré ou deux, j'en suis sûre, quand on ouvrait les fenêtres. J'en suis intimement convaincue.
Ils n'ont pas remplacé les arbres?
Oui, mais ils sont tout petits maintenant.
Ah,
oui. Voilà. Alors, je vous laisse poursuivre, Stéphanie.
Et puis, ceci dit, la chaleur peut également incommoder les résidents des banlieues ou des campagnes. C'est pas seulement parce qu'on vit en ville.
C'est clair.
C'est ça. Alors, pour la majorité d'entre nous, la chaleur n'est problématique que quelques semaines par année. C'est donc traverser l'été sans trop souffrir et sans climatisation, c'est à voir. Alors, Écohabitation fait un petit tour d'horizon d'action pour rafraîchir la maison sans recourir à une unité de climatisation qui refroidit la maison, mais réchauffe le climat. Donc, on va essayer de trouver des alternatives. Alors, premièrement, débarrassez-vous des vieux frigos, des ampoules à incandescence et cuisinez frais. Alors ici, ce qu'on suggère, c'est que les vieux frigos, évidemment, produisent beaucoup de chaleur. L'élément derrière le frigo est très gros. Nous, justement, on a acheté un vieux frigo pour changer celui qu'on avait. Et je crois qu'il y a 3 degrés de plus à l'intérieur de mon appartement. C'est ahurissant. Oui, parce que
on
l'élément...
On pense pas à ça.
Mais non, c'est ça.
Un vieux frigo, ça date de quand?
Bonne question.
2013, non, c'est une blague. Je vous dirais peut-être les années 80, le frigo qu'on a acheté. Oui. Alors, gros éléments, prend beaucoup d'espace et tout. Puis, les ampoules à incandescence aussi. Alors, on y va un peu plus pour les LED, les Energy Star, souvent ils sont brevetés. Et cuisiner frais. Alors, bien sûr, on privilégie les salades ou les aliments froids. On essaie de limiter l'utilisation de l'eau chaude lors de la douche. Leçon numéro un, moins vous emmenez de chaleur chez vous, moins vous devrez refroidir.
Ah bah oui.
Donc,
alors, les rôtis au four, les poulets rôtis, les machins en ce moment, c'est pas une bonne idée. Hein? On va les acheter déjà tout rôtis et puis on est content.
Oui, c'est ça.
Voilà.
On va laisser la chaleur aux autres. Un autre truc qu'on vous donne, c'est étanchéiser contre la chaleur votre appartement ou votre maison. Donc, il y a des petits travaux qu'on peut faire. Inspecter les pourtours des fenêtres autour des installations électriques et de plomberie, autour des conduits de ventilation dans la cuisine et la salle de bain. Alors, ces endroits par où l'air froid s'infiltre en hiver permettent aussi à l'air chaud et à l'humidité d'entrer.
Oui.
Alors, ce serait peut-être quelque chose à vérifier aussi. Et bien sûr, on ouvre les fenêtres pour rafraîchir l'air ambiant. Alors, voyez, lorsque la température à l'extérieur est inférieure à celle à l'intérieur, c'est intéressant d'ouvrir les fenêtres. Mais quand c'est l'inverse...
Ben oui, non, c'est ça.
Voilà. Alors, ouais, l'idée, c'est... Ce serait l'idéal, ce serait d'ouvrir seulement la nuit et le jour, de bloquer l'entrée du soleil avec une toile opaque.
Oui.
Et mettre des stores vénitiens ou, bon, peu importe le style.
C'est la raison pour laquelle, quand vous allez dans les pays chauds, comme dans le sud de la France ou d'autres pays chauds, en Grèce et tout ça, les volets sont tout le temps fermés dans la journée, et les gens font la sieste.
Oui, exactement.
Et c'est aussi une raison, c'est aussi une façon de tu sais, pendant deux heures, tu ne t'aperçois pas qu'il fait... Non, c'est pas vrai.
Ça passe le temps.
Non, c'est pas vrai.
Et puis, bon, bien sûr, on vous rappelle de ventiler. Alors, sans réellement refroidir une pièce, les ventilateurs de plafond ou de table peuvent redistribuer l'air de manière à créer une impression de fraîcheur. Alors, les ventilateurs, évidemment, c'est...
Moi, je me posais la question, justement, sur les ventilateurs. Je me disais, est-ce que je répartis la chaleur ou est-ce que ça fait vraiment... Non, mais je ne savais pas quoi, en tout cas.
Bien, dépendamment de l'intensité de l'humidité, je pense que, oui, c'est ça, ça peut être bien de faire aérer pour sortir le maximum.
Mais moi, mon critère, je dirais que c'est... Je suis pas capable de dormir si j'ai pas le ventilateur.
Ah oui,
donc c'est sûr qu'il me rafraîchit.
Ah oui, c'est ça, clair. OK.
Et puis un autre truc intéressant, alors les plantes rafraîchissantes, les plantes grimpantes, les vignes par exemple, lorsque placées sur les murs particulièrement ensoleillés, empêcheront quelque peu la chaleur d'être stockée dans les murs. Et puis, il y a le...
Mais c'est intéressant, ça, là, ce que vous dites, parce que moi, j'avais essayé de convaincre tous mes copropriétaires.
Ben oui.
Lorsqu'ils ont abattu les arbres, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on planterait pas de la vigne? Ah, parce qu'il va falloir la tailler, tout ça. Oui, mais ça va... D'une part, c'est beau, puis ensuite, ça va rafraîchir. Puis non, ils n'ont pas voulu.
Bon,
alors tant pis. Oui.
Emmenez l'article. Emmenez-leur l'article.
Non, mais...
Et puis, ce qu'on dit aussi pour les plantes d'intérieur, c'est que le phénomène d'évapotranspiration que les plantes utilisent pour réguler leur température intérieure contribue au rafraîchissement de l'air ambiant. Oh. Alors, n'hésitez pas à multiplier les plantes sur vos balcons, terrasses et même à l'intérieur. Vous créerez une oasis de verdure avec de nombreux effets bénéfiques.
Parfait.
Alors, pour les nouvelles constructions et les grandes rénovations, on vous parle de toits blancs et de murs pâles. Donc, plus c'est pâle, blanc, mieux c'est. Évidemment, ça fait rebondir la lumière.
Chaleur,
oui, c'est ça.
Mais il y a des quartiers en ce moment à Montréal où c'est obligatoire. Hein?
Toutes les nouvelles habitations, je crois, c'est maintenant rendu obligatoire.
Oui, mais même les anciennes, celles qui font rénover en ce moment. Okay. J'ai des amis à Rosemont et qui ont été obligés il fallait refaire le toit. Mm. Et le toit est blanc maintenant. Ah. Et elles n'ont pas eu de choix.
Ils devraient...
On ne leur a pas donné le choix.
C'est bien.
Selon moi, ils devraient obliger tout le monde à faire
c'est ça.
Sachant l'effet positif que
exactement.
Ça a. Ouais.
Exactement.
Défaut d'avoir un toit vert, d'avoir un toit blanc.
Ah oui, non, mais c'est vraiment très bon.
Puis, isoler le toit et ventiler l'air surchauffé du grenier. Alors, on sait tous que la chaleur monte. Donc, une bonne isolation de l'entre-toit ou du grenier augmentera votre confort. Plusieurs vieux immeubles sont complètement dépourvus d'isolation dans l'entretoit et une toiture peut atteindre au-delà de 65 degrés Celsius en été. Mmh. Alors, c'est yark.
Ouais.
Fenêtres et feuillus. Alors, lorsque l'on construit une maison, quelques règles de base sont à respecter pour éviter les surchauffes en été. Alors, on limite le nombre et la surface des fenêtres à l'est et à l'ouest pour privilégier celles au sud. En été, les premières reçoivent facilement deux fois plus d'énergie solaire que celles situées au sud, car par moment, les rayons du soleil y entrent presque horizontalement. tout particulièrement en fin d'après-midi. C'est intéressant parce qu'on ne pense jamais à ça, mais quelqu'un qui rénoverait ou construirait de A à Z serait peut-être quelque chose à considérer. De quelle façon la fenêtre est... où elle vise, finalement.
Mais enfin, ça, puis le feng shui, le machin, imagine.
Alors, bien sûr, on parle d'étanchéité une deuxième fois. Et puis, si vous y tenez vraiment et si vous décidez tout de même de vous procurer un climatiseur, optez pour un modèle homologué Energy Star ou du moins consultez l'étiquette Energuide, obligatoire sur tous les appareils, pour faire un choix éclairé. Mm-hmm. Alors, évitez de placer votre climatiseur de fenêtre en plein soleil. Il consommera alors beaucoup plus d'énergie. Alors, c'est ça. Si vous décidez tout de même d'acheter un climatiseur et je ne vous ai pas convaincu, eh bien, c'est vraiment important
de bien choisir. Voilà, de choisir vert, choisir écolo. Ben, ne serait-ce que pour les voisins qui, eux, n'en ont peut-être pas et dont vous chauffez le balcon avec votre appareil, c'est ça. C'est pas toujours...
Mais vous les invitez pour le 5 à 7.
Ah ben, par exemple... Louise, vous êtes prête parce que dans quelques secondes, on passe à vous. Vous allez nous reparler d'amour?
Oui, oui, c'est mon sujet.
Alors, Louise, merci. C'est là qu'il faut que je prenne mon bloc-notes.
Ça serait le temps de prendre papier, crayon et tout ça. Alors, après avoir survécu au coup de foudre, comme Stéphanie et son mari...
Et au coup de chaleur.
Et au coup de chaleur, oui, c'est ça.
C'est les 8 règles à suivre pour avoir une belle relation amoureuse. Ça a été écrit par Marcia Kay de l'Association médicale canadienne et c'est paru dans institutpsy.com. Donc... Si l'on vous demandait quels sont les critères d'une bonne santé physique, vous répondriez spontanément « bien manger, faire de l'exercice et ne pas fumer ». Mais pourriez-vous énumérer aussi facilement les règles d'une bonne relation amoureuse?
Oui.
Un peu plus complexe.
Oui.
Peut-être que non. Une saine relation de couple est pourtant le but recherché par tous les êtres humains. Je dirais peut-être pas tout, là, mais en tout cas, ce sont les moyens d'y parvenir qui nous échappent, comme l'indique le taux de divorce au Canada, 38 % où la province de Québec arrive en tête avec un taux de divorce avoisinant les 50 %.
Aïe, aïe, aïe.
Oh là là!
Je ne sais pas s'ils calculent les relations, conjoints de fait.
Conjoints de fait, non.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mariages comparé aux autres.
Oui, moi je n'ai pas l'impression. Hein, c'est vraiment là, les gens qui passent devant M. le maire. Ouais, voilà. Ça.
En dépit du rôle fondamental que peuvent jouer les relations amoureuses dans nos vies, les moyens d'y parvenir et de maintenir la qualité de la relation ne sont pas innés. On ne les apprend pas à l'école, ils ne sont pas transmis de génération en génération, surtout quand nos parents eux-mêmes ont vu leur mariage prendre fin dans une cour de justice. Cette situation, cependant, n'a rien d'immuable, car les bonnes relations conjugales ne sont pas tributaires de la chance, du hasard ou des circonstances, mais plutôt le résultat d'un travail patiemment réalisé.
Oui.
On le sait tous. Hein?
Oui.
La relation amoureuse est l'œuvre de deux personnes et c'est à chacune d'elles de créer une relation qui réponde à ses aspirations, d'affirmer Shirley Volette, une consultante spécialisée en relations de couple de North Vancouver. Cela demande toutefois certaines habiletés, d'ajouter Phyllis Wheeler, spécialiste en thérapie individuelle ou de couple. Une fois ces habiletés acquises, il s'agit ensuite d'établir des priorités au sein du couple et de mettre nos connaissances à contribution. Bien que l'on entende souvent dire que les relations de couple impliquent des efforts, on n'en est quand même pas aux travaux forcés. Si on est rendu là, c'est peut-être pas la bonne personne. Vous devez constamment investir de l'énergie dans votre relation, mais c'est sans jamais avoir l'impression qu'il s'agit d'une corvée. Voici les 8 règles simples qui vous aideront à bâtir une relation saine avec votre conjoint. Comme vous le constaterez, ces règles sont vraiment simples. Le défi pour le couple est que chacun ait le désir sincère de les mettre en application.
Oui.
Alors, le premier,
je note.
Pour moi, c'est le plus difficile. Un, apprendre à vous connaître. Ça, c'est pas facile et ça implique beaucoup de travail, celui-là.
C'est vrai.
Il est prioritaire de bien connaître vos valeurs fondamentales, soit les choses qui sont les plus importantes pour vous. Par exemple, si vous voulez absolument avoir des enfants et que vous fréquentez quelqu'un qui n'en veut pas ou ne peut pas en avoir, vous pourriez être confronté à quelques problèmes en cours de route. Il pourrait y avoir aussi, parmi vos valeurs fondamentales, des priorités d'ordre financier, religieux ou spirituel. C'est toujours les grosses valeurs qui
Oui, c'est là où ça achoppe, comme on dit. Parfois, là, c'est ça.
Ça
vous avez des enfants, vous aussi?
Non.
Pas d'enfants? Mais ça va venir.
Mais ça, on en a parlé avant.
Ah, OK.
Oui, nous, on l'a eu, la discussion.
Oui. Oh. Non, mais je trouve que celui-là, c'est vraiment une grosse affaire qu'on sait d'avance, là, si on en veut ou on n'en veut pas. L'engagement dans une carrière ou même le besoin de vivre en ville plutôt qu'à la campagne ou inversement. Quant aux célibataires, dont je fais partie, je crois, Clotilde.
Oui, absolument.
Sont à la recherche d'un compagnon ou d'une compagne de vie, Mme Follette les incite à se demander quels sont les points sur lesquels ils ne sont pas prêts à faire des concessions. Cela ne signifie pas que les conjoints doivent être pareils. Des talents et des antécédents différents peuvent au contraire favoriser l'attirance d'une personne vers une autre. Mais les gens dont les valeurs fondamentales présentent des similitudes ont de meilleures chances de bâtir une relation de couple solide que ceux qui ont peu de choses en commun.
Donc, certes.
C'est l'équilibre. Prenez conscience, le critère numéro 2 ou la règle numéro 2, c'est prenez conscience que vous êtes des alliés, non des adversaires. Donc, ce n'est pas des guerres de pouvoir, puis il y en a un gagnant, puis un perdant et tout ça. Donc, dans un couple, chacun devrait être le complice de l'autre plutôt que son rival. La relation de couple fondée sur les rapports de force a pour effet de produire un gagnant et un perdant, ce qui ne conduit jamais à une relation saine.
Et on voit ça pourtant.
C'est
incroyable.
Oui.
Mais je trouve que c'est le rôle de l'ego qui est dans le fond.
Puis là, on sait qu'il y a l'enfance qui rentre là-dedans. Il y a toutes les douleurs, il y a toutes les cicatrices précédentes. C'est pour ça que c'est compliqué.
C'est un principe vital que vous devez toujours garder à l'esprit lorsque les circonstances de la vie vous dressent l'un contre l'autre. Ensuite, troisième règle, cesser de blâmer l'autre. Donc, se responsabiliser aussi, là. Voici une situation fréquente chez les couples. Lui aurait le goût de faire l'amour, mais elle est reintée par sa journée au bureau, par les tâches ménagères et par les travaux scolaires des enfants, n'en a pas du tout envie. Alors, il se fâche et lui crie « Tu es toujours trop fatiguée ». Phyllis Wheeler lui explique alors qu'au lieu de blâmer sa conjointe, il serait bon qu'il prenne conscience de son propre comportement. Par exemple, s'il libérait sa conjointe de certaines tâches ménagères...
C'est ce que j'allais dire.
et qu'il prenait la relève auprès des enfants pendant qu'elle se détend, elle serait probablement mieux disposée à avoir des relations intimes avec lui.
Puis en voyant l'équité aussi, ça stimule un peu plus.
Oui, c'est ça. L'autre, la quatrième règle, c'est exprimer-lui votre appréciation. Je l'aime beaucoup, celle-là, parce que je trouve que souvent, on prend l'autre pour acquis et on se dit, mais oui, c'est sûr que j'aime ça quand il fait ça, mais on ne lui dit jamais.
Et puis, c'est vraiment votre appréciation. Donc, ce que vous, vous ressentez et pas comment vous percevez l'autre.
Exactement.
Mais t'es un vrai abruti quand tu dis ça. tu vois, quand tu dis ça, chérie, je me sens mal. C'est déjà très différent.
La réception est différente.
Mais le message est le même.
Oui. Quand c'est toujours la même personne qui paie les factures, qui vide le lave-vaisselle ou qui se rend chez le mécanicien pour les changements d'huile, l'autre finit parfois par trouver cela tout naturel et par oublier d'exprimer son appréciation. Cela peut provoquer un sentiment de frustration chez votre partenaire qui pourrait croire que vous le prenez ou la prenez pour acquise. En consultation, je recommande au couple de verbaliser leur appréciation, de dire Mme Wheeler, qui a elle-même, avec succès, mis cette habitude en pratique pendant 30 ans dans sa propre vie de couple.
Wow.
Qui s'est terminé brutalement il y a 3 ans lorsque son conjoint a succombé de crise cardiaque.
Non, c'est ça.
Tous les jours, nous exprimions l'un à l'autre notre reconnaissance pour les choses que nous accomplissions. Par exemple, jamais on ne ratait une occasion de se dire merci quand l'un de nous deux allait reconduire les enfants au match de hockey et d'exprimer l'un et l'autre le bonheur que nous avions de vivre ensemble. Donc, je trouve que ça nourrit beaucoup le couple. Les gens ne lisent pas dans les pensées, alors comment pourraient-ils deviner ce que vous ne leur dites pas?
Exactement.
La cinquième règle, témoignez-vous un respect mutuel. Je crois que sans respect, il n'y a pas d'amour. Pour moi, là, c'est une chose fondamentale.
Admiration aussi. Peut-être que je coupe, non? peut-être que vous en parliez.
On est rendu à la cinquième.
Non, c'est ça.
Parfois, les conjoints se parlent avec moins de respect qu'ils ne le feraient s'ils s'adressaient à des collègues de travail ou à des étrangers. Ça, c'est quelque chose. Mmh. Les insultes, les blasphèmes, le mépris et la moquerie peuvent avoir un effet dévastateur sur les relations de couple, et cela même si c'est involontaire. Quand j'ai commencé à m'observer, je me suis rendu compte que lorsque j'étais en colère ou contrariée, j'avais tendance à tenir des propos sarcastiques, nous dit Mme Volette, qui est mariée depuis 21 ans. C'est en prenant conscience de son propre comportement qu'elle a réalisé qu'il suffisait de faire des petits efforts pour l'améliorer. Les gens s'imaginent souvent que, quelle que soit la manière dont ils traitent leur partenaire, ce dernier ou cette dernière ne les quittera jamais, mais ils se leurrent.
Oui. C'est ça.
Après plusieurs années de domination, de brutalité ou de manque de respect, une personne peut décider qu'elle en a assez et qu'elle ira faire sa vie ailleurs, de dire Phyllis Wheeler. Le sixième, c'est accepter les différences entre votre conjoint et vous. Ah, il va toujours y en avoir.
Il va toujours y en avoir.
Puis de toute façon, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas comme nous.
Oui. Non, c'est ça.
En tout cas, un petit peu au moins pas comme nous. Trop souvent, nous essayons de changer notre conjoint pour qu'il devienne notre copie conforme.
Oui.
Bien que les gens puissent changer, ils doivent toujours le faire selon leurs propres critères. Et même à ces conditions, il n'est pas garanti qu'il se plie à nos exigences. Ce qui est garanti toutefois, c'est que vous vous rendrez malade à essayer de changer l'autre.
Oui.
Parce que vous ne pouvez pas changer l'autre, c'est lui qui va le décider. Donc, ensuite, la septième, c'est partager le pouvoir avec l'autre. Il est naturel, mais non réaliste, de croire que l'on peut faire toujours les choses à sa manière. Dans une relation saine, chaque conjoint doit pouvoir céder de temps à autre une partie de son besoin de contrôle au profit de l'autre ou du couple. Une relation saine implique des compromis, de la collaboration et de la négociation, des qualités que l'on manifeste dans le cadre du travail, mais que l'on abandonne trop souvent dans le cadre de la vie professionnelle, personnelle. Ensuite, prenez le temps de vous ressourcer. Dans le fond, le couple, c'est trois choses, hein? C'est une personne, l'autre personne et le couple.
Oui.
Alors, pour nourrir, il faut qu'on...
Absolument.
Chacun se ressource. La relation de couple est comme un être vivant. Elle mourra si on n'en prend pas soin. On doit donc y consacrer tous les jours un peu d'attention. Prenez au moins 15 minutes par jour pour prendre en couple une tasse de thé ou un verre de vin, pour faire ensemble un peu de marche ou de course à pied, ou pour converser au téléphone sans être interrompu. Profitez-en pour échanger quelques banalités du quotidien, la coupure que vous vous êtes faite avec du papier, le B+ obtenu par votre fils à l'examen de mathématiques ou les exploits du nouveau chien des voisins. Efforcez-vous d'être à l'écoute de votre conjoint lors de vos conversations. Bien qu'il n'ait rien de renversant en soi, ces échanges anodins mais réguliers agissent comme du ciment sur la relation. Si vous pouvez aussi réserver quelques heures par semaine à votre couple, un week-end occasionnel en amoureux ou des vacances annuelles, ce serait encore mieux. L'important est que vous puissiez non seulement vous détendre ensemble, mais rêver ensemble, de conclure Mme Volette.
C'est fou parce que ce sont que des choses qu'on sait, et pourtant, à un moment donné...
On a de la difficulté à appliquer.
Ah, on rate notre coup, quoi. Puis voilà, et puis finalement, on se ramasse tout seul, comme une abrutie. Bon, alors, les choses étant dites, sauf que je vous dis tout de suite, là, ne m'inondez pas de courriel ou de téléphone. Je suis très bien toute seule, mesdames et messieurs, et je ne recherche absolument rien. Je pense, on a peut-être quelques petites brèves de votre côté, Stéphanie. Moi, j'en ai aussi du mien, mais attendez, j'ai même un petit jingle pour nous annoncer des petites brèves. Alors j'ai par exemple celle-ci, vous qui aimez l'écologie, l'environnement, ça se passe en France, j'ai trouvé ça dans le Journal de Montréal ce matin, ça se passe plus exactement en Alsace, à Strasbourg. Vous connaissez...
C'est beau, Strasbourg.
C'est beau, hein, qu'on appelle la petite Venise hein, de la France avec ses canaux et tout. C'est absolument magnifique. Puis, on ne mange pas bien du tout, du tout. Non, c'est pas gras, c'est pas cochon. Non, pas du tout. Alors, la ministre de l'écologie, qui est Ségolène Royal, a inauguré hier une unité de production de biométhane de la station d'épuration de Strasbourg. Vous allez comprendre ce que c'est. C'est une première en France dont elle a souhaité la multiplication. Quatrième station d'épuration de France, ça a une capacité de traitement des effluents d'un million d'habitants. Elle produira et injectera dans le réseau de gaz naturel 1,6 million de mètres cubes de biométhane par an. Et en fait, ils transforment la boue en gaz.
Ouais, c'est super.
C'est ça l'idée. Ouais. Cette ressource permettra de couvrir les besoins énergétiques de 5 000 logements en basse consommation.
disent les promoteurs du projet Suez, exploitant de la station pour l'Eurométropole de Strasbourg et le réseau gaz de Strasbourg, une société d'économie mixte. Ça n'a rien à voir avec les gaz de schiste. Mais c'est important de le dire parce que la France pourrait produire, selon la ministre, 6 à 8 terawatts à l'heure. Ça, je ne connais pas bien cette mesure-là. Les spécialistes apprécieront. Donc, 6 à 8 terawatts à l'heure de biométhane en 2023. Et je me suis dit que c'est une nouvelle qui...
C'est une
qui
nouvelle fascinante. Mais voyez, en Californie, les parcs à chiens, parce que tout le monde sait que les numéros 2 des chiens, de tous les animaux, émanent du méthane.
Oui, c'est ça, oui.
Puis, mais dans les parcs à chiens en Californie, l'endroit où est-ce que les gens peuvent disposer des cacas des chiens, le méthane est récupéré pour allumer les lampadaires du parc à chiens.
Oh, wow!
Donc, c'est quand j'ai lu cette nouvelle-là il y a quelques années, j'étais fascinée. C'est brillant, c'est super, ça demande absolument rien. Puis en plus, les gens vont dans le parc à chiens, c'est généralement ça qui arrive.
Ça devient pas un déchet.
Ouais, non, exact, c'est ça, c'est récupéré.
Ah, c'est super!
Vous en avez parlé?
Stéphanie!
Oui.
Oui, vous avez une petite brève, nous.
Oui, alors, c'est tout récent. Donc, le livre à boire peut sauver des millions de vies. Qu'est-ce que le livre à boire? Eh bien, ça ne se contente pas de délivrer des messages de prévention. C'est utilisé comme filtre. Ces pages éliminent 99,9% des bactéries. De quoi je parle? D'un livre que chacune des pages peut être utilisée pour filtrer l'eau, par exemple, dans les pays du tiers-monde. Et les personnes peuvent boire de l'eau qui est filtrée. Donc, peuvent avoir accès à de l'eau potable soudainement grâce à une page d'un livre.
OK, mais attendez, est-ce qu'on pourrait retrouver n'importe quel livre qui sort en ce moment sur papier ou ce sont des livres qui paraissent expressément pour ça?
Bonne question. Alors, c'est un livre qui a été créé par une chimiste.
OK, donc c'est un livre. On ne va pas faire paraître, malheureusement, tous les livres.
C'est pas tous les livres, non.
Non, mais imaginez le truc. Imaginez qu'on puisse ensuite envoyer dans ces pays-là tous les livres, le nombre de livres qui passent au pilon là, quand ils ne sont pas vendus.
Ben, voyez, une page peut filtrer 100 litres d'eau. Alors, c'est Teresa Dankovic de l'Université Carnegie Mellon à Pittsburgh, tout près d'ici. Elle est responsable des recherches. Alors, elle affirme que même avec des sources d'eau fortement contaminées par des millions de bactéries, nous pouvons atteindre 99,9% de pureté grâce aux nanoparticules d'argent et de cuivre qui sont intégrées dans ce qui peut ressembler à une page d'un livre. Alors...
En tout cas, il y a peut-être une idée, encore une fois, à fouiller là-dedans. Ça passe vite, mesdames, une heure, hein, comme ça. C'est déjà fini. C'est déjà fini. L'émission se poursuit. Il y aura d'autres voix de service qui vont partager avec moi l'heure et demie qui reste à cette émission du jour. Je voudrais vous remercier, Stéphanie Balthazar et Louise Mercier. Je vous retrouve la semaine prochaine.
Oui,
toutes les deux.
Ça va faire plaisir.
J'ai déjà hâte. Merci beaucoup.
Merci.